Vous écoutez, on lit pour vous.
J'ai des neurones qui ont explosé. Adèle vit avec une paralysie cérébrale. Un texte paru le 15 avril 2026 dans le magazine 20 minutes. Dans la vie, Adèle aime la cuisine, le théâtre d'improvisation et chanter du Lady Gaga à l'heure du petit-déjeuner. Ce que j'aimerais faire aussi, ce sont des sports de combat pour me défouler, mais toutes les activités ne sont pas adaptées au handicap, glisse la jeune fille de 10 ans, tout juste rentrée de l'école. Depuis sa naissance, la Ligérienne est atteinte d'une paralysie cérébrale, un handicap moteur qui entraîne, dans son cas, une paralysie partielle des 4 membres, surtout du côté gauche, et un trouble de l'élocution. « J'ai des neurones qui ont explosé », lâche-t-elle entre 2 bouchées de son précieux goûter. « Ma main gauche est plus tendue que ma main droite, mais je suis très souple quand même. » Calée sur un ballon ovale qui lui permet de tenir assise entre la table du salon et le canapé, Adèle est très à l'aise à l'idée de parler de son handicap. C'est elle qui mène la danse et, gare à ceux, ses parents, qui voudraient prendre la parole. « À cause de la paralysie cérébrale, je ne peux pas marcher, mais ça ne me fait pas mal, rassure-t-elle. Des fois, ça me fait des petites fourmis dans les pieds. J'ai l'impression qu'ils sont en plastique. » À 10 ans seulement, la fille cadette d'une fratrie de 2 enfants a déjà subi une radicellectomie. L'opération consiste à couper quelques fibres nerveuses pour amoindrir la rigidité musculaire. À 4 ans, Adèle marchait les pieds tendus, retrace son père Frédéric sans la quitter des yeux. Cette spasticité et rigidité musculaire commençait à l'envahir au fur et à mesure qu'elle grandissait. L'opération lui a permis de reposer les pieds au sol et de marcher à nouveau avec l'aide d'un tiers. Ce handicap, Frédéric et Eugénie l'ont découvert lorsque leur fille avait 10 jours. Un délai qui n'a rien d'anormal, puisque la paralysie cérébrale se manifeste à la suite d'une lésion, saignement ou anoxie, sur un cerveau en développement rapide pendant la grossesse, au cours de l'accouchement ou lors des 2 premières années de l'enfant, vulgarise Audrey Fontaine, kinésithérapeute spécialisée en rééducation neuropédiatrique et membre du conseil scientifique de la Fondation Paralysie cérébrale. Une caractéristique qui concerne une naissance sur 500, rappelle la spécialiste. À peine sortis de la maternité, les parents d'Adèle se sont retrouvés désemparés. Nous ne connaissions rien au handicap et surtout, nous n'envisagions pas ses conséquences, se rappelle Eugénie. Du jour au lendemain, notre vie, nos libertés et nos décisions ont été conditionnées. Très vite, les 2 habitants de l'agglomération nantaise ont dû articuler leur quotidien autour de ce handicap, quitter leur CDI respectif, aménager leur maison, contacter les bons professionnels. La famille a finalement trouvé son organisation, mais déplore encore quelques difficultés, notamment en matière d'accompagnement. À 1 an de son entrée au collège, les parents d'Adèle ont fait le choix de la scolariser dans une nouvelle école pour qu'elle puisse se faire de nouveaux copains avec lesquels vivre son passage en 6e, explique Eugénie, mais ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu. Après 6 années passées aux côtés de la même AESH, accompagnement d'élèves en situation de handicap, Adèle se plaint aujourd'hui d'un isolement social. Maintenant, je n'ai plus beaucoup d'amis et ma nouvelle AESH n'est là qu'à demi-temps. Quand je suis seule en classe, c'est toujours le bazar et j'ai du mal à me concentrer. Cette problématique Adèle a eu l'occasion de la verbaliser lorsqu'elle a été sélectionnée par le premier conseil des enfants du Conseil national consultatif des personnes handicapées, CNCPH. Le dispositif permet aux enfants en situation de handicap de donner leur avis sur les projets de loi et de faire des propositions sur les sujets qui les concernent. J'ai proposé que les AESH soient mieux payés pour qu'il y en ait plus et qu'on les valorise, détaille la jeune fille qui prend son rôle très à cœur. Cette responsabilité vient compléter un emploi du temps déjà bien chargé. En parallèle, Adèle doit se rendre régulièrement chez un ergothérapeute, un kinésithérapeute et un orthophoniste. Un suivi primordial pour sa croissance. Par la rééducation, on peut aider le cerveau à mettre en place de nouveaux réseaux pour apprendre de nouveaux fonctionnements, explique Audrey Fontaine. À travers des jeux, Adèle a récemment appris à boutonner son gilet, utiliser son ordinateur ou ouvrir un yaourt. Des petits riens du quotidien qui lui permettront, une fois adulte, de réaliser la longue liste de ses envies comme découvrir New York et devenir cuisinière. C'était « J'ai des neurones qui ont explosé, Adèle vit avec une paralysie cérébrale », un texte publié le 15 avril 2026 dans le magazine 20 minutes.
Nos enfants handicapés ne seront jamais rentables. Et alors? Un texte signé à titre de mère de Thomas, paru le 7 avril 2026 dans Le Devoir. Je suis parent d'un adulte handicapé de 22 ans. Comme tous les parents, moi qui avais pourtant gagné le jackpot à la loterie de la vie, je n'ai jamais demandé l'impossible. Je demandais, et je demande encore, une vie décente pour lui. Du soutien pour qu'il gagne en autonomie. Des relations. Un endroit où il pourrait exister, apprendre, socialiser, s'amuser, rire. Pendant les premières années de sa vie, malgré toutes ses imperfections, le système tenait, mais avec des broches. Il y avait des éducateurs spécialisés dans nos vies, parfois des professionnels chevronnés, ergothérapeutes, psychoéducateurs, travailleurs sociaux. Ce n'était pas parfait, mais c'était là. Et on s'en contentait. Aujourd'hui, tout s'effrite. Cette semaine encore, de nouvelles lignes directrices du ministère de la Santé et des Services sociaux ont été publiées. Elles imposent aux personnes ayant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme qui reçoivent des services socio-professionnels des durées maximales. 24 mois pour les plateaux de travail et les ateliers, 12 mois pour les stages. On nous dit que ces mesures visent les personnes prêtes à l'emploi pour leur donner accès à un vrai travail rémunéré. Sur le principe, c'est louable. Mais la réalité est tout autre. On estime que seulement 3 à 5 % des participants à ces programmes intégreront réellement le marché du travail. Et les 97 % autres? Une demande d'action collective vise actuellement le gouvernement du Québec pour contester le manque d'inclusion de certains programmes socio-professionnels et à obtenir un dédommagement pour le manque de rémunération et l'exploitation. Si cette initiative cherche à corriger des situations d'exploitation bien réelles, ses effets destructeurs sur nos enfants sont déjà en marche. À vouloir à tout prix se distancier d'une étiquette d'exploitation, on risque de voir s'effondrer ce qu'il reste d'un réseau déjà très fragilisé. Au nom d'un principe qu'on nous présente comme incontestable, « tout travail mérite salaire », on applique une logique uniforme à des réalités profondément différentes. Dit comme ça, c'est irréprochable. Mais dans les faits, ce principe pénalise les personnes ayant les besoins de soutien les plus élevés, celles qui n'accéderont probablement jamais à un emploi rémunéré. Parce que tous les humains ne produisent pas au même rythme. Parce que certains de nos enfants ne produiront jamais assez pour répondre aux exigences du marché. Et quand on exige que toute activité soit rémunérée selon ses standards, on ne les protège pas. On les écarte. Silencieusement, les milieux professionnels ferment, les places diminuent, les durées de fréquentation sont plafonnées. Et ceux qui ne progressent pas assez vite, ils sortent, sans solution. Comment appelle-t-on une société qui ne garde que ceux qui suivent la cadence? Officiellement, on parle d'inclusion. Dans les faits, on trie. Personne ne dira ouvertement que certaines vies valent moins que d'autres. Ce serait inacceptable. Alors, on utilise d'autres mots soporifiques. Performance, employabilité, trajectoire, optimisation, complémentarité de services. Mais la logique, elle, est troublante. À une autre époque, on parlait de coûts sociaux. On cherchait à alléger la société de ceux qui ne répondaient pas aux standards et qui coûtaient cher. Aujourd'hui, on ne tient plus ce discours brutal. On fait plus propre et plus discret. On met en place des règles qui, sans jamais le dire, mènent au même résultat. Moins de place pour ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Ce n'est pas une exclusion frontale. C'est une érosion organisée. Une régression tranquille. À rideau fermé. Et pendant ce temps, nous, les parents, on tient la ligne. Par la force des choses, nous sommes devenus les complémentarités de services. Programmes de jour, transport, accompagnement, loisirs et au final, le soutien constant. Parce que lorsque le système se retire, quelqu'un doit bien rester. Mais jusqu'à quand? Nos enfants n'ont pas besoin qu'on les mesure avec des outils de performance. Ils ont besoin de réadaptation, de plans d'intervention pertinents, de temps, de répétition, d'encadrement et surtout d'intervenants expérimentés. Ils ont besoin qu'on reconnaisse leurs valeurs autrement. Pour eux, le travail n'est pas une question de salaire. C'est un lien avec le monde, une dignité concrète. À force de vouloir tout normaliser, on finit par exclure tout ce qui est différent. Et il faut avoir le courage de le dire. Lorsqu'une société réduit progressivement l'espace des personnes les plus vulnérables au nom de normes qu'elles ne pourront jamais atteindre, ce n'est pas du progrès. C'est un recul. Un recul poli, structuré et qui se dit justifié. Mais un recul quand même. Et nous, comme parents, refusons de rester silencieux pendant que l'on organise, à mots couverts, l'abandon de ceux que nous aimons. C'était « Nos enfants handicapés ne seront jamais rentables. Et alors ?» Un texte signé à titre de mère de Thomas, paru le 7 avril 2026 dans Le Devoir.
J'ai toujours eu une tête croche. Entrevue avec Denis Arcan. Deux textes de Mario Girard parus le 22 avril 2026 dans la presse. Premier texte. On n'a pas besoin d'une raison particulière pour rencontrer Denis Arcan. Mais quand en plus il est question d'un texte qu'il porte à la scène et du 50e anniversaire de la sortie Donnet au coton, le plaisir est quintuplé. Discussion enflammée où le passé rejoint le présent, à moins que ce ne soit le contraire. Denis Arcan est formel. Trente arpents est l'un des plus grands romans québécois. Selon lui, cette œuvre méconnue de Ringuet, écrite en 1938, peut aisément côtoyer Le Survenant, Un homme et son péché, Maria Chapdelaine, Bonheur d'occasion et Les Ploufs. Car il est question de terroir dans cette histoire bouleversante, de survivance, de sacrifice, de dépossession et d'exil. De tout ce qui compose la réalité de nos ancêtres lorsqu'ils découvrent que la terre d'où il est difficile d'extraire des patates est un leurre. Au cœur de cette fresque, il y a Eucariste Moisan dont on suit le parcours, de l'enfance à la vieillesse. Il y a une quinzaine d'années, Denis Arcan a eu l'idée d'extraire ce personnage et de créer un récit à une voix. Pour moi qui ai toujours écrit des dialogues, c'était une expérience très intéressante, me confie-t-il devant un café. Cette réécriture d'Arcan, intitulée simplement Eucariste Moisan, a eu un certain retentissement lors de sa parution en 2013. Et voilà que ce texte connaît depuis le 25 avril 2026 une nouvelle vie sur la scène de « La tête de cochon à Saint-Stanislas » en Mauricie. Conçue par Atelier Luc Laramé, la même équipe qui travaille actuellement à la restauration de certaines boiseries du Salon Bleu, cette salle de 80 places fut autrefois un abattoir. Il y a 2 ans, mon ami Edgar Bory m'a dit qu'il voulait apprendre ce texte par cœur et le jouer, raconte Denis Arcan. C'est quand même 2 heures de texte. L'équipe de La Tête de Cochon lui a demandé de venir inaugurer la salle avec ça. Denis Arcan a accepté de diriger Edgar Bory dans une proposition théâtrale dépouillée de tout artifice. Ce roman est une dystopie totale, dit Denis Arcan. Cet homme commence sa vie sur une terre irritée de ses parents et la termine comme veilleur de nuit dans un garage municipal du Massachusetts où on ne parle qu'anglais autour de lui. J'aime ça, car, comme tu le sais, mes films ne sont pas des puits d'espoir, dit-il en éclatant de rire. Mais au fait, qui était ce mystérieux Ringuet? C'était un médecin qui avait pour nom Philippe Panton. Son héritage littéraire se résume à ce roman. Il a eu une certaine célébrité, car il apparaissait à la télévision dans un jeu de connaissances qui s'appelait « Le nez de Cléopâtre ». Philippe Panton faisait régulièrement le trajet Trois-Rivières-Montréal pour aller y enseigner. C'est dans le train qu'il a trouvé le moteur de son roman. Il entendait des agriculteurs qui venaient à Montréal pour des procès concernant des querelles de clôture. C'est d'ailleurs cela qui fait sombrer Eucariste Moisan. Puisque j'avais Denis Arcan devant moi, la question s'est imposée. Des idées de nouveaux films? En anglais, il y a un mot merveilleux qui est « serendipity ». Ça veut dire qu'on peut se laisser porter par le courant en espérant des événements heureux. Dans ma vie, je n'ai presque jamais proposé de projet. C'est Mark Blanford qui m'a convaincu de faire une série sur Duplessis. C'est Roger Frappier qui, après 2 bouteilles de vin, m'a convaincu de faire un film sur le référendum. Denis Arcan me jure qu'il n'a donc aucun projet de film en chantier. Quand j'ai fait mon dernier film, j'ai eu l'impression que c'était fini. Maintenant, je peux changer d'idée. Ajoute-t-il en précisant que Bergman a fait un film à l'âge de 86 ans après un silence de 18 ans. Testament a divisé le public et la critique. Mais il est arrivé 2e au box-office québécois. Ça veut dire qu'il y a encore du monde qui veut voir mes films. S'il n'y avait plus personne dans les salles, c'est sûr que ça me poserait un problème. Et qu'est-ce que ça fait de voir que des thèmes controversés abordés dans ces films, état du système de santé, attitude des syndicats, aide médicale à mourir, cancel culture, etc., éclatent ensuite dans la réalité? Bien sûr que c'est un baume. Mais bon, j'ai toujours eu une tête croche. Je pense de façon clivante. J'étais comme ça à 5 ans. Tous les créateurs se posent la même question. Mon œuvre aura-t-elle un écho dans 20 ou 30 ans? Denis Arcan a eu un avant-goût de la réponse en décembre dernier lorsqu'il a assisté à une projection de son film Gina avec des étudiants de l'UQAM. Ils étaient tellement allumés. Ils avaient tout vu ce que j'avais mis dans ce film. Il n'y a rien de plus merveilleux au monde que ça. En attendant que de nouvelles idées émergent de sa tête croche, Denis Arcan crée Eucariste Moisan, qu'il souhaite voir partir en tournée, et prépare pour septembre le lancement de Flashback, un ouvrage constitué de souvenirs, d'anecdotes et de lettres publiées chez Le Méac. Il ne fait aucun doute que cette lecture ne sera pas ennuyante. Vous écoutez « J'ai toujours eu une tête croche », entrevue avec Denis Arcan. 2 textes de Mario Girard, parus le 22 avril 2026 dans la presse. 2e texte. 50e anniversaire de la sortie d'On est au coton. Le film interdit de Denis Arcan. Il y a 50 ans paraissait le film documentaire de Denis Arcan On est au coton, après un long purgatoire de 6 ans imposé par la censure. L'histoire de ce film tabletté et de sa renaissance est importante, car elle témoigne d'une période marquante de notre histoire. À la fin des années 1960, Denis Arcand est pigiste à l'ONF. Jusque-là, il n'a fait que des courts-métrages. La proposition de Michel Brault d'écrire le scénario de ce qui deviendra « Entre la mer et l'eau douce » lui procure des ailes. À cette époque, le marxisme était revenu à la mode dans les milieux intellectuels, raconte Denis Arcand. Ça me chicotait pour toutes sortes de raisons. Je venais d'une famille de marins et, en général, les marins sont apolitiques. Ils sont en mer. Le marxisme est relié aux usines. Ça me fascinait. Denis Arcand prend contact avec son ami Gérald Godin. Les deux s'étaient connus à la revue Parti pris et lui demandent d'être son recherchiste. La plus grande industrie au Québec à ce moment était le textile. Il y avait 100 000 travailleurs dans ces usines. Le cinéaste prend contact avec la direction de la plus importante du genre, la Dominion Textile. Je suis allé voir son président, Edward King. Je lui ai dit que j'aimerais le filmer partout, en réunion, dans son bureau. Il était réticent. Je l'ai convaincu en lui promettant de lui montrer la version montée et que s'il n'était pas satisfait, j'allais retirer les sections qui le concernent. Pendant près de 2 ans, de 1968 à 1969, Denis Arcand visite les usines textiles et rencontre des femmes qui tirent le diable par la queue, des hommes qui souffrent de problèmes pulmonaires d'avoir trop respiré la poussière et des syndicalistes. Il veut connaître leur sort, celui que Clémence Desrochers décrit très justement dans « La vie de factory ». Denis Arcand se lance dans cette aventure sans idée précise. La seule question que nous avions en tête était « Est-ce que la révolution prolétarienne s'en vient ?» se souvient-il. Des centaines et des centaines d'heures d'images, les scènes abrutissantes des machines sont particulièrement éloquentes, et de confidences sont gravées sur pellicule. Le film est montré à Edward King en 1970. « Je sais de quel côté de la barricade vous êtes », dit-il au cinéaste après la projection. « Je vous demande de retirer tout ce que vous avez filmé à mon sujet. » Edward King s'empresse de mettre l'Institut canadien du textile au courant de ce projet. Il n'en faut pas plus pour qu'une pression soit exercée à Ottawa et qu'elle se rende à l'ONF. Résultat, On est au coton est interdit de diffusion par le commissaire Sidney Newman, tout comme le sera 2 ans plus tard, 24 heures ou plus, de Gilles Groulx. On sentait bien que la situation politique changeait au Québec, reprend Denis Arcand. À Ottawa, on a tenté de faire taire certaines voix. Selon le cinéaste, cette interdiction fut une très mauvaise décision. « Quand tu censures un film déjà fait, dit-il, il y a de fortes chances qu'il soit quand même vu. Le film a circulé sous le manteau. Et puis, il faut le dire, cette censure a grandement contribué à me faire connaître. Il faudra attendre au 13 octobre 1976 pour que le film soit enfin projeté à la Bibliothèque nationale du Québec. Dans les années 2000, l'ONF se met à produire des coffrets de quelques grands cinéastes canadiens. « J'ai souvent embarrassé l'ONF, » dit Denis Arcand. « Il n'était pas question d'en faire un avec mes films. » Mais en 2004, lorsque Denis Arcand remporte l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour Les Invasions barbares, le vent tourne. Ce fut la panique à l'ONF. Ils ont décidé en vitesse de faire un coffret de mes films. Entre-temps, Edward King était décédé. Son fils a vu la version finale et a accepté que les images avec son père soient réintégrées. C'est donc cette version de 2h52 que l'on peut maintenant voir sur le site de l'ONF. 50 ans après cette affaire, Denis Arcand a un seul regret. « Je trouve dommage que les gens qui sont au cœur du film n'aient pas pu le voir en 1970. » Je pense que s'il était sorti au moment prévu, il aurait pu y avoir un grand débat. C'était « J'ai toujours eu une tête croche », entrevue avec Denis Arcand. Deux textes de Mario Girard, paru le 22 avril 2026 dans La Presse.
Atteint de troubles neurologiques fonctionnels, José Lito Michaud donne des nouvelles de sa santé. Un texte de Michel Lemieux, paru le 27 octobre 2025 dans le magazine 7 jours. José Lito Michaud a ému ses abonnés ce samedi 25 octobre en annonçant une évolution très positive de son état de santé. L'animateur et producteur, qui lutte depuis maintenant 3 ans contre des troubles neurologiques fonctionnels, TNF, a révélé sur Facebook qu'il constatait enfin une nette amélioration. Depuis 3 semaines, les symptômes des troubles neurologiques fonctionnels ont réduit de moitié. C'est une belle victoire pour moi, écrit-il avec gratitude, expliquant qu'il commence à voir la lumière au bout du tunnel. Reconnaissant envers ceux qui l'ont soutenu dans cette épreuve, José Lito a souligné l'importance de la bienveillance et de la douceur dans sa guérison. « Je dois reprogrammer le cerveau pour envoyer les bons signaux à mon corps. Pour y parvenir complètement, il faut que j'apporte de la paix, de la douceur et de la joie, beaucoup, dans ma vie. » Au fil de ce long parcours, l'auteur et papa a également trouvé un sens nouveau à travers la création. Son plus récent ouvrage, « Madame, est-ce que je vais être choisie ?», lui a permis de faire la paix avec son passé et avec lui-même. Toujours animé par la passion de raconter et de mettre les autres en lumière, José Lito, qui avait créé la série « Chaos », a aussi collaboré à la mise en scène du spectacle, là où l'impossible prend vie de Luc Langevin, avec qui il prépare déjà de nouveaux projets. Et rappelons à ses fans que José Lito reprendra bientôt son métier d'intervieweur avec le lancement de son balado « Je ne voudrais pas être indiscret », attendu en novembre. Merci pour tous vos mots encourageants et de m'avoir choisi. C'est un privilège que j'honore, conclut-il, visiblement reconnaissant et tourné vers l'avenir. C'était, atteint de troubles neurologiques fonctionnels, José Lito Michaud donne des nouvelles de sa santé, un texte de Michel Lemieux, paru le 27 octobre 2025 dans le magazine 7 jours.